Tu as pêché où? Baobab, acajou.
Dur de la feuille.
Baobab, acajou. Tu as pêché où?
L'émission qui susurre à vos oreilles.
Huron, cyprès, pin, élan de palissandre. Mais l'aise tremble, tremble être noyé.
Bienvenue dans un épisode spécial de la série Feuilles de chou. La série qui interroge et nourrit l'information du vivant. Chaque épisode relate une actualité dans ses moindres recoins pour comprendre ce qu'elle signifie pour le vivant. Dans cette lancée si réaliste, je vous propose ensuite un extrait d'un récit fantastique avant de connaître les rendez-vous et éléments précieux à ne pas manquer. Le sujet du jour. Fin mars 2025, publication d'une nouvelle découverte scientifique dans nos sols, un antibio-résistant, la lariocidine, article de Nature. Qu'est-ce qu'un antibio-résistant? Comment le sol pourrait-il en héberger? Quelle surprise! La matière brune pourrait-elle encore contenir? Des chercheurs de l'université McMaster, en collaboration avec des chercheurs de l'université de l'Illinois à Chicago, ont découvert un puissant antibiotique candidat qui peut tuer un large éventail de bactéries, notamment celles résistantes aux antibiotiques existants. La résistance aux antibiotiques se produit lorsque les bactéries évoluent et développent une résistance contre les antibiotiques. Il s'agit d'une crise majeure de santé publique dans le monde qui rend le traitement des infections bactériennes difficile. Plus de 4,5 millions de décès sont survenus en raison de la résistance aux antibiotiques en 2019. Depuis la découverte des antibiotiques au siècle passé, ces molécules ont été et sont encore énormément utilisées. Que ce soit bien sûr en santé humaine, mais aussi dans l'agriculture, en particulier l'agriculture intensive. On sait maintenant que cet usage démesuré des antibiotiques a conduit les bactéries pathogènes, les mauvaises bactéries, à développer des résistances aux molécules dont nous disposons actuellement, les rendant de moins en moins efficaces. Ce phénomène, qu'on appelle l'antibiorésistance, présage d'une véritable crise sanitaire qui devrait survenir dans les années à venir. L'OMS la considère même comme une menace existentielle pour l'humanité. Attention, je vais vous donner un brin de langage savant. Petits curieux, restez en ligne, je vulgarise juste après. La lariocidine inhibe non seulement la synthèse des protéines, en interférant avec la translocation, mais induit également des erreurs de traduction, ce qui lui donne un double mécanisme d'action. En clair, pas de capacité aux mauvaises bactéries d'exercer leur influence, car cette molécule antibiotique, lariocidine, fait bugger le messager, l'empêchant également de se reproduire et de lutter contre l'action de l'antibiotique. Pour parvenir à ce résultat, les chercheurs ont généré une collection de souches bactériennes environnementales en les cultivant en laboratoire pendant environ un an. Une telle culture à long terme a permis la croissance des bactéries, même les plus lentes, qui auraient pu être manquées autrement. En menant une série d'expériences biochimiques et structurelles, ils ont constaté que la lariocidine est capable de tuer un large éventail de bactéries, y compris des souches multirésistantes, en inhibant la synthèse des protéines ribosomales. Ils ont également constaté que la lariocidine arrive à contourner les mécanismes de défense que les bactéries ont développés pour résister à d'autres médicaments. Quelle richesse! Dans si peu de sol d'un simple potager, pour rappel, un gramme de sol contient plusieurs milliers d'espèces de bactéries et un millier d'espèces de champignons. Au total, ce gramme représente des dizaines de millions de gènes et de fonctions. Ces dernières fabriquent les sols et leur fertilité, mais constituent aussi une formidable réserve de ressources pour notre industrie ou notre santé. Dans cette nouvelle publication parue dans Nature, les scientifiques canadiens montrent que notre environnement est plein de ressources. Dans les sols, les micro-organismes attaquent les roches et la matière organique morte, produisant les molécules nitrate, phosphate et les éléments magnésium, potassium, oligo-éléments qui nourrissent les plantes. Leurs activités ou les vides laissés à leur mort font les petits trous qui retiennent l'eau et permettent que, entre deux pluies, Il y a de l'eau disponible dans ces écosystèmes. Des champignons, associés aux racines des plantes, les mycorhiziens, collectent ces ressources, eau et sels minéraux, et les acheminent aux racines en échange de sucre. Les microbes sont partout, et sont des contributeurs indispensables au fonctionnement des écosystèmes. Sous une forêt, le sol est d'autant plus épais et complexe. Comment pourrions-nous continuer de si belles découvertes si les forêts tombent ? L'heure est venue de tendre l'oreille à un conte fantastique où Laurent Houtan demande de l'aide à l'autre bout du monde. Les contes pour la planète, chapitre 2. Le chant de la forêt.
Il était une fois un petit orang-outan qui vivait dans la jungle. Il adorait manger des bananes au petit déjeuner en écoutant sa musique préférée, celle que chantaient les toucans, les grenouilles, les jaguars et les cacatoès. Un véritable orchestre symphonique. C'était la musique la plus harmonieuse et la plus vibrante qui existait à ses yeux. Un véritable spectacle, unique au monde. Un jour, alors que le petit orang-outan était en train de cueillir une banane, il entendit quelque chose d'étrange. Un nouvel instrument avait rejoint l'orchestre. Quel était donc cet animal ? Il fut d'abord très heureux à l'idée de se faire un nouvel ami. Piqué par la curiosité, il voulut savoir à quoi il ressemblait. Était-ce un animal marin ? De la savane ? Ou bien du désert ? Il aurait bien aimé que ce soit une girafe. C'était son animal préféré. En effet, elle avait la même couleur que ses chères bananes. Jaune avec des taches brunes. Il n'en avait jamais vu, mais on lui avait dit que les girafes étaient très belles et qu'elles en imposaient par leur grande taille. L'orang-outan grimpa à la cime de l'arbre le plus haut de la forêt pour percer le mystère.
« Oui, c'est une girafe !»
s'écriait-il.
« Elle est grande, imposante, et elle a un long cou tout jaune !»
Le lendemain, à l'heure de la banane, le nouveau son n'était plus du tout agréable.
« Comme notre musique est devenue bizarre depuis l'arrivée de la girafe !»
pensait-il. Il remonta tout en haut de l'arbre et vit avec horreur sa jungle défigurée. Elle n'était plus luxuriante ni verdoyante. Que se passait-il ? Il leva les yeux et aperçut deux girafes au loin. Puis une troisième se montra. C'en est terminé. La girafe n'était plus son animal préféré. Depuis leur arrivée, la forêt avait entièrement changé. Elle avalait un à un les arbres en faisant un horrible bruit qui provoquait la panique parmi les animaux. L'orang-outan avait fini par comprendre qu'il s'agissait en fait de machines. Sa maison forêt était en danger et il devait appeler à l'aide. Il réunit alors tous les animaux et organisa le plus étourdissant des concerts. Il espérait ainsi que la musique dépasserait les frontières de la forêt. Hélas, le bruit des machines empêcha la musique de la jungle d'être entendue. Le petit orang-outan décida alors de partir lui-même chercher de l'aide. Il marcha longtemps, jusqu'au jour où il tomba sur un petit village, là où se trouvait une école où il entra. À la surprise générale, l'orang-outan prit un morceau de craie et fit un dessin sur le tableau noir en versant une larme. Tout le monde comprit. L'école se réunit et on décida d'écrire des lettres et de faire plein de dessins. Puis, les enfants les envoyèrent à leurs amis dans le monde entier. Ils voulaient leur raconter comment les machines détruisaient les arbres dans les forêts et comment ensemble, ils pourraient faire quelque chose pour les sauver. Le lendemain matin, le petit orang-outan, qui mangeait sa banane comme à son habitude, entendit une douce mélodie. Il descendit alors de son arbre et alla voir les machines. Quelle surprise ! C'était le plus beau et le plus joyeux des spectacles qu'il avait jamais vu.
Thank you.
qu'est-ce que le sol, cette matière brune, peut encore nous réserver comme surprise, lui qui alimente le monde. Terre de sienne, terre verte, terre d'ombre, terre d'ocre et terre de cassel, autant de pigments de couleurs tirés du sol et animant les peintures de nombre de nos amoureux du chevalet. Ces peintres, qui habillent les murs de nos musées, ont figé à jamais des paysages de nature préservée. De Théodore Rousseau à Paul Cézanne, voilà désormais que les paysages qu'ils ont tant aimés sont soumis à des projets industriels. À la fin du XIXe siècle, le bois de Fontainebleau fut protégé, sur une section, par les peintres de l'école de Barbizon. En 2023, le Conseil d'État a enterré le projet de parc éolien qui devait être installé à environ 5 km d'Illiers-Combray, le village de Marcel Proust décrit dans Du côté de chez Swann. Aujourd'hui, c'est Paul Cézanne qui est invoqué pour stopper la création d'un nouveau quartier au pied de la montagne Sainte-Victoire. Car lorsque les risques sanitaires avérés dus à la proximité des axes routiers, tels que les autoroutes A8 et A51, et les destructions d'espèces protégées ne suffisent plus, la culture se pose parfois comme un dernier rempart à l'urbanisation des espaces naturels. Montagna, valle, bosque, flora e fauna, paisajes sin fin. La montagne Sainte-Victoire a été rendue mondialement célèbre grâce à Paul Cézanne, qui en a fait son thème d'inspiration favori. Entre 1878 et 1906, le peintre impressionniste français l'a immortalisé sur plus de 80 œuvres, à l'huile ou à l'aquarelle, et la montagne est aujourd'hui admirée dans les plus grands musées du monde, du Met à New York, au musée de l'Ermitage de Saint-Pétersbourg. Avec le projet de construction, le paysage représenté dans le tableau La Montagne Sainte-Victoire, vendu aux enchères à quelques 137 millions de dollars, sera amputé de 80%. Les musées transmettent depuis plusieurs années leur inquiétude et les associations se mobilisent avec leurs peintres, amoureux de la nature, en étendard. Les couleurs qui proviennent de la terre ont guidé des œuvres représentant un monde où la montagne est reine et la forêt divine. Il nous reste tant de choses encore à découvrir, dissimulées, juste sous nos pieds.
Yes. mano no respeta la ley de la vida, lo que nos sostenga. Honra la tierra, reza al cielo, ama tus hermanos.
Tu y a péché ou baobab acajou. Cette série reviendra au gré de la pousse du chou. La semaine prochaine, nous tendons la feuille à une passionnée du vivant, cuisinée aux petits oignons.
Pain des landes palissandres, mais les œufs tremblent, tremblent être noyés.